Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, vous et toute l'équipe de Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Avec aujourd'hui, une large place accordée à la BD, la bande dessinée. D'abord classique, avec les sorties d'albums, maintenant que les librairies, bonne nouvelle, ont réouvert. Puis on sera plus pointu, on va parler comics. Ce sera vers 10h30. Mais avant cela, il y aura le journal des médias de Cyril La Carrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et notre infomédia autour d'un documentaire passionnant sur les hikikomori. C'est un terme japonais qui désigne des reclus volontaires qui ne sortent plus de chez eux ou de leur chambre s'ils habitent encore chez leurs parents pendant des mois, voire pendant des années. Il serait déjà des dizaines de milliers en France et près d'un million au Japon. Nos invités ont ensuite bien décidé à sortir. Le journaliste Stéphane Soumier, ancienne figure de BFM Business, qui lance aujourd'hui sa chaîne télé à lui, Bismart, centrée autour de l'économie et des PME. On va lui demander si le moment est bien choisi. Enfin, le DJ Bob Sinclair, grand vainqueur musical et médiatique du confinement, ses DJ set live quotidiens ont été vus et entendus par des millions de gens dans le monde, pas en les rajoutant, parfois au même moment, 2 millions de personnes qui le regardaient mixer dans le monde. Dans la foulée, il sort un nouveau single créé pendant le confinement. Il y aura en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et votre voisin d'en face, bonjour Cyril La Carrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est le moment de votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ce matin, du changement à la rentrée prochaine sur BFM. Paris-Normandie passe aux mains de la Belgique. Instagram, qui vous préfère en maillot de bain. Et un samedi soir à ne pas manquer l'année prochaine.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
C'est Camping 2 qui a planté sa tente. Près de 5 300 000 téléspectateurs étaient devant TF1 hier soir. Ensuite, la série Major Crimes de France 2 est deuxième de la soirée avec 3 millions de téléspectateurs. Et le secret d'histoire spécial de Gaulle sur France 3 est sur la troisième marche du podium avec près de 2 700 000 téléspectateurs.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec du mouvement du côté de BFM TV.
On l'a appris hier, la chaîne opère deux changements sur sa grille. Le premier, c'est l'arrivée de Bruce Toussaint sur la tranche du 9-12 en lieu et place de Thomas Misraki. Bruce Toussaint qui lâche donc sa case du soir et son Tonight Bruce Info. Et BFM TV qui recrute Maxime Switek, un nom qu'on connaît bien ici à Europe 1, et qui va donc quitter l'émission C'est à vous sur France 5. Nous avons contacté Marc-Olivier Fogiel pour qu'il nous livre ses premiers commentaires sur ces changements. Le directeur général de BFM nous explique pourquoi il a choisi Maxime Switek.
Je me suis dit, plutôt que ce qui aurait été possible, promouvoir quelqu'un en interne, j'ai voulu aller chercher une culture un peu différente. Finalement, ce que j'aime bien chez Maxime, et j'ai pu le voir déjà à Europe il y a une dizaine d'années, et ensuite à C'est à vous dans ce qu'il fait tous les soirs, il a cette culture news. Et en plus, il a cette façon intéressante de réfléchir à l'information en la triturant un petit peu pour lui faire dire un peu autre chose, raconter autrement et avoir un ton un peu différencié. Finalement, c'est le même type de journaliste, des gens qui sont performants sur le news et qui ont cette culture un peu différente et qui permet d'enrichir une tranche en lui amenant un petit supplément d'âme.
Et donc, je vous le disais, l'autre changement, c'est l'arrivée de Bruce Toussaint le matin, un horaire où la concurrence avec CNews est particulièrement forte. Entre 9h et midi, Pascal Praud et Jean-Marc Morandini continuent d'afficher de solides scores d'audience. Et j'ai donc demandé à Marc-Olivier Fogiel si c'est la montée en puissance de sa rivale qui avait motivé ce changement et l'arrivée d'une personnalité plus connue du grand public.
Justement, le matin, avec ce potentiel d'audience, Bruce, par ce qu'il représente aujourd'hui pour le grand public, a une dimension supplémentaire. C'est un présentateur qui a plus de cordes à son arc et que le grand public connaît davantage. Certes, le 9-12 de CNews fonctionne, mais c'est tellement autre chose. C'est tellement, j'allais dire, et moi je regarde en me disant, ben voilà, ils ont trouvé une façon de se foxiniser d'une certaine manière, et c'est cohérent et c'est efficace, mais c'est tellement ce qu'on ne veut pas faire que je n'ai pas Bruce pour aller challenger un concurrent qui est dans une voie efficace mais qui n'est pas du tout la nôtre. Mais quand je voyais par exemple Philippe Devilliers pendant 1h35 sans publicité du tout pendant 1h35 comme le vendredi dernier avec Marion Maréchal Le Pen, c'est tout ce qu'on ne fera pas.
Voilà pour tout ce que ne fera pas BFM TV, mais les batailles s'annoncent serrées à cette heure-ci, comme on l'a souligné, ce créneau stratégique, puisque selon Marc-Olivier Fogiel, le 9-12 représente 20% de l'audience de BFM TV.
Le feuilleton de la reprise du quotidien Paris-Normandie va enfin trouver son épilogue.
La Normandie devient belge. Le tribunal de commerce de Rouen a décidé de choisir le groupe Rossel pour tenter de relancer le quotidien régional. Son offre de reprise prévoit la suppression de 60 postes sur les 240 que compte Paris-Normandie. Rossel n'est pas un nouveau venu dans la presse française. Le groupe belge possède déjà notamment La Voix du Nord, Le Courrier Picard ou encore L'Union de Reims.
Mediapart a publié hier une enquête sur Instagram où l'on apprend que moins vous portez de vêtements, plus vous serez vu.
C'est le paradoxe de la plateforme américaine, propriété de Facebook. Interdiction de s'y montrer tout nu et même interdiction d'y voir une œuvre d'art où serait représenté un sexe ou même des seins. Et pourtant, l'algorithme d'Instagram comporterait des biais inattendus. Les journalistes Judith Duportail et Nicolas Kaiser Brill se sont plongés dans les secrets du réseau social. Nous avons demandé à Judith Duportail de nous expliquer ce qu'ils ont découvert dans le cœur du réacteur d'Instagram.
On est parti du constat que nous ont fait plusieurs influenceurs et influenceuses, notamment des personnes qui utilisent Instagram pour promouvoir leur activité professionnelle qui n'a rien à voir avec le mannequinat ou les maillots de bain ou tout ce qui pourrait justifier de poser un peu déshabillé. Des jeunes femmes qui nous confiaient qu'elles ne faisaient exprès de poster plus que des photos en maillot ou en soutien-gorge ou en brassière ou en culotte parce que c'était le seul moyen finalement d'attirer de l'audience sur leur compte ou leur page Instagram. Et donc on a exploré ce constat-là en analysant 2500 images et en calculant le taux d'exposition des images où les personnes étaient dénudées et le taux d'exposition des autres. Et le résultat que nous avons trouvé, c'est qu'une photo où une femme est déshabillée a 1,6 fois plus de chances d'être montrée qu'une photo où elle est habillée, et pour les hommes, 1,3.
En France, 20 millions de personnes utilisent Instagram. Et même si Facebook et toutes les autres plateformes s'en défendent, ces réseaux sociaux sont bien devenus des médias à part entière. Et qui dit médias dit responsabilité. Nous avons demandé à la journaliste de Mediapart ce que cette enquête révèle du fonctionnement d'Instagram et de son algorithme.
C'est important parce que l'algorithme d'Instagram, il définit une espèce de ligne éditoriale implicite qui influence nos choix sans qu'on s'en rende plus ou moins compte. Ou alors même si on s'en rend compte, et qui fait qu'on s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et là, le message qui est envoyé à toutes les femmes sur Instagram, il est limpide. Tout ce que vous avez à dire sera toujours moins important que votre corps. Et quand on sait que la majorité des utilisatrices d'Instagram sont des jeunes femmes, parfois des très jeunes femmes, des jeunes filles de 13-14 ans, on se demande, enfin moi je me demande en tout cas, est-ce que c'est ça le message qu'on a envie de faire passer à ces jeunes femmes dans la société d'aujourd'hui ?
En lisant cette enquête, vous découvrirez encore un autre phénomène, celui du shadow ban, c'est-à-dire la radiation de l'ombre, ou comment des personnes de couleur, des personnes fortes, handicapées ou LGBT peuvent être empêchées de promouvoir leur poste sur Instagram au seul motif qu'ils ne correspondent pas à des critères établis.
Empêchées vraiment ?
Oui, empêchées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas acheter de la publicité pour pouvoir mieux afficher leur message.
Oh, dingue.
Et donc, je vous recommande donc la lecture de cette enquête sur le site mediapart.fr.
Et on termine avec une date que vous souhaitez qu'on coche tous dans notre calendrier, Cyril.
Eurovision annulée, ouais. Eurovision reportée, mais Eurovision ressuscitée. Les organisateurs du concours de chant européen ont confirmé que la grande finale de l'Eurovision 2021 aurait bien lieu à Rotterdam le samedi 22 mai 2021. Donc, après l'annulation cette année de cette grande soirée pour cause de coronavirus, l'Eurovision sera bien de retour. Reste à nous trouver un champion. Hein, vous me voyez venir ?
Ouais, bien sûr.
Ici, à Culture Média, on croise les doigts pour vous savez qui.
Mais oui.
Mais dites son nom quand même.
C'est Tom.
Voilà. Tom Lehm.
Mais enfin, c'est Tom Lehm. C'est Tom. Tommy.
Merci Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau Journal des Médias.
À suivre l'infomédia du jour avec un documentaire saisissant sur France 5 qui parle des hikikomori, un mot japonais désignant des hommes et des femmes qui vivent reclus, coupés du monde et des autres. C'est la réalisatrice Mickaëlle Gagné qui les a rencontrés et qui vient nous en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est alors Philippe de l'infomédia du jour.
Hikikomori, ce mot ne vous dit sûrement rien et pourtant il fait l'objet d'un documentaire passionnant ce soir sur France 5. C'est un terme japonais qu'on pourrait traduire par se cloîtrer, un terme employé au Japon comme en France pour désigner les reclus sociaux, des jeunes ou des moins jeunes qui ne quittent plus leur chambre, se coupent du reste du monde. Pour les psychiatres, ce mal est encore une énigme. Pour en parler, nous sommes avec la réalisatrice du documentaire. Bonjour Mickaëlle Gagné.
Bonjour.
Comment s'est-on exactement si une personne est hikikomori? Est-ce qu'il y a une définition précise? Est-ce qu'il y a des symptômes précis?
Alors, hikikomori, c'est un terme japonais donc qui signifie se cloîtrer. Et être un hikikomori, c'est rester pendant plus de 6 mois enfermé dans sa chambre. C'est la définition officielle du gouvernement japonais et qui est reprise en France aujourd'hui.
Alors, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de personnes qui s'isolent pour méditer. On parle bien de problèmes psychiatriques. Et vous suivez le travail de Marie-Jeanne Gedge. Elle est psychiatre en France à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle a été l'une des premières à s'intéresser aux jeunes reclus. Et elle vous raconte ce qu'elle a pu constater parfois lors de ses visites à domicile.
J'ai vu des cas extrêmes. J'ai vu des jeunes qui, pour ne pas sortir, ont des bouteilles pour faire leurs besoins dans les bouteilles. Et bon, le cas extrême, c'est d'être enfermé dans le noir avec le plateau repas posé devant la chambre.
Vous dites dans le documentaire, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde. Quelle ampleur en France?
Alors en France, on n'a pas de chiffres précis puisqu'ils sont invisibles par définition. Ce sont des personnes qui sont reclus, qui se cachent. Mais on pense à des dizaines de milliers de jeunes, plutôt des garçons de moins de 30 ans. Et il y a aussi un chiffre qui a été donné par le ministère de l'Emploi, c'est qu'il y aurait à peu près plus de 900 000 jeunes qui ne sont ni en stage, ni en emploi, ni en formation, donc qui sont invisibles dans les statistiques. On imagine que parmi eux, il pourrait y avoir des hikikomori.
Le ministère de l'Emploi en France?
Oui.
Et au Japon, les chiffres?
Au Japon, c'est 1 million qui sont répertoriés pour l'instant. Et maintenant, ce phénomène touche le monde entier. Madame Gedge Bourdieu, la psychiatre, a vu aussi des cas en Afrique, en Asie, aux États-Unis. C'est en fait un peu le symptôme d'un mal contemporain.
Alors, vous avez réussi à avoir des témoignages de plusieurs hikikomori, des Français et des Japonais. Ce sont des gens hostiles, on l'a dit, au monde extérieur. Ça a dû être plutôt, comment avez-vous réussi à les faire témoigner avec la présence d'une caméra?
Alors cela a été très très compliqué. Je ne pensais pas, pour avoir travaillé sur des sujets sensibles, d'autres sujets sensibles, que ça serait si difficile. Il a fallu parfois passer par de longs mois de conversations par internet, par mail ou par même des logiciels un peu sécurisés comme Discord, parce que certains sont assez méfiants, même peut-être presque paranoïaques. Ils ont peur du monde extérieur, ils ne veulent pas communiquer et souvent il a fallu donc de longs mois de conversations, parfois les rencontrer seuls, sans caméra, pour qu'ils acceptent. La majorité a accepté, mais à visage caché. Un seul a accepté à visage découvert. Il n'est pas dans le documentaire, mais c'est quelqu'un qui est sorti de son état d'hikikomori.
Alors, on va entendre l'un d'entre eux, Aël, qui vit enfermé dans une cabane de jardin de 12 mètres carrés depuis 14 ans.
Ici, c'est ma chambre. C'est là où je vis les trois quarts du temps, sauf quand je vais aller manger le soir. C'est là où j'ai vécu pendant 14 ans, enfermé dans cette petite chambre. C'était une période de total laisser-aller. Ma chambre n'était pas nettoyée, mais je ne rangeais plus du tout. Je me lavais que très rarement. J'étais plongé dans ma programmation H24. Une fois que je me suis enfermé, c'était la libération. J'étais bien, j'étais seul. J'avais plus de compte à rendre à personne. Ensuite, petit à petit, je glissais vers une souffrance. En réalité, l'isolement commençait à me peser. Puisque je n'avais plus personne à qui parler, à part mon ordinateur.
Témoignage très fort. Il va un peu mieux à elle, non?
Alors à elle va mieux parce qu'il a fait une rencontre à elle grâce à un forum de discussion qu'il a lui-même créé, a rencontré une jeune femme. Alors ça peut paraître fou. Comment des gens qui ne veulent pas se rencontrer physiquement, qui n'osent pas sortir, peuvent se rencontrer? Ils ont discuté pendant des mois via ce forum et puis ils ont osé une rencontre physique
mais
un jour.
Mais pas n'importe quelle jeune femme.
Ah non, c'est une jeune femme qui elle aussi est reclue sociale, qui se définit comme hikikomori, qui elle a eu beaucoup de problèmes dans son enfance, qui est resté des mois, des années enfermé. Mais finalement, ces deux solitudes se sont rencontrées. Et aujourd'hui, ils arrivent à prendre le train, à aller chez l'un, chez l'autre, à passer quelques mois ensemble, mais toujours dans un huis clos, toujours enfermé dans le chalet de Haël. Et le soir, par contre, ils dînent avec le père de Haël. Donc c'est quelque chose de particulier, mais c'est déjà un progrès pour arriver à sortir.
Vous parlez du père d'Aël, ce sont des situations évidemment très dures à vivre pour les parents. Beaucoup témoignent, à visage découvert pour la majorité. C'est le cas de cette maman.
On a pris la décision de faire hospitaliser mon fils parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il vit enfermé dans sa chambre, qu'il ne sort que pour manger et se doucher et que on s'inquiète beaucoup pour lui. C'est toujours difficile de prendre conscience ou de s'avouer que quelqu'un qui nous est proche souffre d'une maladie mentale, Alors, on ne sait pas si vraiment c'est une maladie, mais on voudrait surtout que cet état cesse. C'était l'enfant de qui j'étais le plus proche. Et vous avez vraiment un sentiment de perte, voire un sentiment de deuil, parce que vous n'avez plus votre enfant, en fait. Vous avez en face de vous un étranger qui ne vous répond pas, dont vous ne savez plus ce qu'il pense, parce qu'il ne s'exprime pas. Donc, c'est un sentiment un peu déroutant, quoi.
Et autre folie dans la folie, tant est que ce soit de la folie, dans certaines familles, vous racontez qu'il y a même une double peine qui arrive, puisque les parents, à leur tour, s'isolent.
Bien sûr, les psychiatres parlent de double hikikomori, c'est-à-dire que quand on a un enfant dans cette situation, souffre énormément, et il y a une certaine honte sociale de ne pouvoir dire aux autres ce que fait son enfant, ce qu'il devient, et surtout, on se sent totalement impuissant. Donc on parle de double hikikomori parce que le jeune homme s'enferme, mais la famille s'enferme, elle est elle aussi en retrait social, et n'a plus du tout envie de rencontrer des amis, de voir du monde parce qu'elle a honte de cette situation. Et c'est cette honte d'ailleurs qui est au cœur de cette souffrance familiale.
Ça vient du Japon et on va aller faire un tour avec vous et votre caméra au Japon.
Oui, ils vivent cloîtrés chez eux la plupart du temps dans leur chambre et ne sortent que pour satisfaire des besoins impératifs. On les appelle les hikikomori et on continue à en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Dans l'infomédia du jour, on parle des hikikomori, un mot japonais désignant des hommes et des femmes qui vivent reclus, coupés du monde et des autres, avec un documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h55, Hikikomori, les reclus volontaires. Une question que s'est posée la réalisatrice Mickaëlle Gagné, elle est avec nous pour en parler, Philippe.
Formidable doc produit par Magnéto Presse, vous montrez surtout le cas d'adolescents ou de jeunes adultes français, mais une partie de votre documentaire se passe également au Japon, où là-bas il existe de vieux hikikomori, c'est un vrai problème de société au Japon.
C'est un grand problème de société. En fait, ce phénomène est apparu dans les années 90 avec la crise économique, la pression aussi scolaire. C'est une société très dure, hein, la société japonaise. Et dès qu'on sort un peu du chemin que les parents ont choisi, on a des problèmes de grosse pression sociale et familiale. Et beaucoup de jeunes s'enferment en étant totalement déprimés ou font des burn-out importants. Et c'est devenu un tel phénomène de société qu'il y a plus d'un million d'hikikomori, c'est reconnu comme une maladie. Et face au vieillissement de la société, hein, c'est une des sociétés les plus âgées du monde, la société japonaise, il y a évidemment des hikikomori qui vieillissent, qui s'enferment aussi parfois d'ailleurs vers 50 ans, 60 ans, et qui peuvent mourir seuls. On les appelle d'ailleurs les morts solitaires.
Alors vous avez pu recueillir le témoignage d'un japonais hikikomori depuis 34 ans. Il est incapable de rester éveillé toute la journée. Il confie devenir fou s'il est trop longtemps au contact d'autres personnes. Il a vécu des personnes d'enfermement total, tel, je le cite, un homme des cavernes. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il arrive enfin à sortir de chez lui. Enfin, une fois tous les 4 jours seulement, il n'a plus aucun lien social. Et voici ce qu'il gêne à propos de sa situation.
Ce qui me préoccupe, c'est que si je meurs seul, mon corps ne va pas être découvert tout de suite. Il va pourrir et l'odeur va être terrible. Le propriétaire et les voisins risquent de s'en apercevoir. Cela va les gêner. Cela me préoccupe beaucoup. Il faut que je trouve une solution.
Ce qui l'inquiète, c'est l'odeur. 30 000 reclus chaque année qui mourraient seuls, selon les chiffres, sans que personne s'en aperçoive. Est-ce que vous avez eu connaissance de cas semblables en France, de vieux hikikomori?
Alors non, je n'en ai pas eu connaissance parce que c'est un phénomène récent qu'on a découvert récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, même si la psychiatre que je suis travaille sur ces cas depuis 20 ans. Mais évidemment que ça pourrait arriver. Sauf comme aujourd'hui, on connaît ce phénomène qu'il sort du silence, qu'il sort du tabou. On espère que ça n'arrivera pas. L'idée, c'est de prendre ces cas très tôt, de voir qu'un décrochage scolaire, ce n'est pas anodin, que peut-être derrière cela, il y a une détresse, que si un jeune adolescent ne sort pas de sa chambre pendant plusieurs semaines, il faut faire quelque chose, il faut consulter. Et aujourd'hui, on sait que des médecins sont équipés, sont compétents pour détecter ce mal-être.
Donc si les parents nous écoutent, qu'ils sachent qu'il y a des traitements. C'est une profonde dépression, c'est une maladie mentale, c'est une maladie psychiatrique. Comment est-ce qu'on pourrait le définir?
Alors non, en fait, on le définit très simplement, c'est une conduite. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait parler de... Il y a l'anorexie pour les jeunes filles. On peut se scarifier si on se sent extrêmement désespéré. Et bien là, c'est une conduite, c'est juste un signe. On s'enferme. Mais derrière cela, il y a une multitude de choses. Il peut y avoir des traumatismes, un deuil, une séparation qu'on a du mal à accepter, du harcèlement scolaire, des abus sexuels. Mais il peut aussi y avoir derrière une maladie psychiatrique. On peut détecter des schizophrénies, des graves dépressions, une psychose. Voilà, il se cache toujours quelque chose. C'est juste un signe auquel il faut être très attentif quand on a des adolescents qui ont tendance à se refermer. Ce n'est pas normal de passer des semaines, des mois enfermés et de ne manger qu'avec un plateau repas déposé devant sa porte.
Mais justement, on va s'adresser aux parents, s'il y en a qui nous écoutent et qui se posent cette question-là, ce que je ne souhaite pas. L'avenir des jeunes hikikomori est tout de même une source d'angoisse justement pour les parents, comme ceux de Paul que vous avez rencontré. Les parents, Paul est reclus depuis 4 ans dans sa chambre. On écoute les parents.
Qu'est-ce qui est très inquiétant quand on voit son enfant dans cette situation ?
Deux choses. Est-ce qu'on est responsable ? Ça, c'est clair. On se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait ? Où est-ce que ça a péché ? Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas éternel. Qu'est-ce qui va devenir après notre mort ? Voilà. Même si, effectivement, on n'est pas de besoin, etc. Mais finalement, à part nous, il n'y a personne. Voilà. C'est les deux choses. Est-on responsable ? Qu'est-ce qui va devenir ? Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. On s'en fout. Je veux dire, qu'il fasse n'importe quel boulot, n'importe quel truc. On s'en fout complètement. On veut qu'il soit heureux. Juste que le but, c'est qu'il soit heureux. Voilà.
Votre documentaire, Mickaël Gagné, est à voir ce soir sur France 5 dans Le Monde en Face. Il sera suivi d'un débat. J'en parle parce que justement, vous parlez de solutions et donc vous entendrez ce soir les solutions qu'on peut trouver. Ce sera évidemment évoqué dans le débat. Vous dites que ce phénomène est arrivé du Japon dans les années 90, mais comment explique-t-on l'augmentation de cas dans le monde entier ? La psychiatre Marie-Jeanne Gage, qui témoigne dans votre doc, explique avoir eu des études dans de nombreux pays, de continents différents. Ça n'a donc rien de culturel ou si ? Ou c'est une mode ? Pardon pour ce terme.
Non, ça peut être un peu culturel, mais c'est plus large que cela. En fait, ça ne vient pas du Japon. Ça a été détecté au Japon, repéré au Japon. Et ensuite, des équipes françaises et européennes se sont intéressées à ce phénomène et ont découvert qu'il y en avait. En fait, c'est simplement parce que la découverte s'est faite plus tardivement qu'au Japon. Alors effectivement, des sociologues, des anthropologues disent que c'est un mal-être contemporain qui serait peut-être le résultat d'une pression assez forte sur les jeunes, avec beaucoup d'injonctions de réussite, de performance, que certains jeunes aujourd'hui ne supporteraient pas, avec aussi le fait qu'aujourd'hui on s'enferme facilement dans une chambre, les parents mettent à disposition une chambre, et il est plus facile de s'enfermer.
Et il y a quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans, c'est à l'ordinateur, puisque ce sont des gamers, ils parlent, ils sont quand même sur l'ordi,
exactement.
Donc ils sont enfermés sans être enfermés. Alors, tout en l'étant.
Exactement, ils ne sont pas forcément addicts aux jeux vidéo, mais ils ont cette chambre souvent individuelle que les parents peuvent offrir à leurs enfants, ils ont un ordinateur. Ça leur permet d'être en contact avec le monde, de continuer à communiquer, de jouer aussi, mais ce n'est pas parce que certains lisent beaucoup, par exemple, ou certains sont même des as de géopolitique. Ceux que j'ai rencontrés sont très cortiqués. C'est des gamins, des jeunes intelligents, informés, cultivés. Mais effectivement, ils ont cette fenêtre sur le monde.
Marcel Proust, qui ne sortait plus de chez lui les dernières années, c'était un hikikomori ou rien à voir ?
Alors, je ne sais pas, parce qu'on ne pouvait pas le savoir
parce qu'il était
à ce
cortiqué,
moment-là.
C'est pour ça que je pense à lui.
Je pense que c'était surtout un artiste, un grand écrivain qui avait besoin de s'isoler. Peut-être l'était-il. Je pense qu'on en a tous besoin à un moment ou à un autre.
Parce qu'il y en a un que vous montrez dans le doc qui est peintre et qui travaille sans relâche.
Exactement. Et qui d'ailleurs, son idole, c'est Picasso. Et lui a besoin de cela. Mais il y a une différence, comme le dit très bien la psychiatre dans le documentaire, entre avoir besoin de s'isoler pour créer et refuser toute communication qui, à la longue, de toute façon, rend terriblement malheureux. On ne peut pas vivre sans altérité.
Merci beaucoup, Mickaël Gagné. Votre documentaire, Hikikomori, les reclus volontaires, c'est ce soir sur France 5. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Notre prochain invité, Stéphane Soumier, le président fondateur de la chaîne Bismart, qui commence à émettre aujourd'hui. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, on accueille Stéphane Soumier.
Bonjour Stéphane Soumier.
Bonjour.
Vous avez remis le casque à la manière des anciens d'Europe 1.
Tout pareil.
Vous êtes un ancien d'Europe 1, journaliste, pareil. Mais c'était presque dans une autre vie, puisque désormais vous êtes connu.
Pourquoi
comme
dans
journaliste
une autre vie?
Économique.
Non. Ah c'est, je retourne chez ma mère ici.
Ah oui.
Eh ben oui, bien sûr, je suis rentré, j'ai tout appris ici.
Voilà, Stéphane Soumier, biberonné à Europe 1. Longtemps, vous avez été la figure et le maître d'œuvre de la chaîne BFM Business, mais désormais, vous volez de vos propres ailes. Ça a même démarré ce soir, l'envol, à 18h, une nouvelle chaîne de télé sur les box, mais également sur tous les réseaux et tous les devices, comme on dit, s'appelle Bismart.
Alors, pas encore tous les box et les plans de service vont monter en puissance.
Grillez pas tout, parce que j'ai plein de questions qui arrivent. Vous savez, on est là pour un petit moment.
D'accord, d'accord.
Ça va s'appeler Bismart, le B, c'est comme business. Bismart, je traduis ça, ça veut dire soyez intelligent. Et le dossier de presse pose d'emblée une très bonne question. Pourquoi un média consacré à l'économie? À quoi j'ajoute, franchement, est-ce que c'est le moment?
Ah bah oui, c'est pour le coup, on s'était posé la question pendant le confinement, est-ce qu'on démarre ou est-ce qu'on démarre pas?
Ouais.
Alors pour le coup, il n'y a plus aucun doute sur oui, c'est le moment. Alors consacré à l'économie, consacré plus exactement aux entreprises. Et en fait, ce qu'on veut faire, nous on se dit, on a identifié un problème d'accès à l'information pour notamment l'ensemble de ceux qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire. Il y a des entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME qui sont des entreprises formidables. Et les dirigeants de ces entreprises vivent dans le même monde que nous, c'est-à-dire un monde qui avance à 100 à l'heure. Ils n'ont pas l'accès à l'information et les sources d'information que peuvent avoir les grands groupes. Une information sur leurs entreprises, une information sur leur secteur, une information sur les dimensions internationales qu'ils peuvent avoir envie de prendre ici ou là. Et donc, c'est ça qu'on avait envie de faire. De l'information d'entreprise, des témoignages et des combats. Et on se dit qu'en ce moment, là, au moment du redémarrage, avoir des informations sur les secteurs et la façon dont chaque secteur repart, avoir des témoignages, ce qu'on appelle des bonnes pratiques. L'un de mes premiers invités, ce sera Jean-Philippe Cartier, formidable patron d'une petite demi-douzaine d'hôtels, H8 Collection. Comment tu redémarres? Comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on remet les équipes au boulot? Comment est-ce qu'on attire à nouveau les clients? Est-ce qu'on tient sur les prix? Question très très importante.
Oui.
Est-ce qu'on brade pour relancer? Ouais, mais comment tu remontes les prix ensuite? Où est-ce que tu tiens sur les prix? Bon, vous voyez ça? Et puis, l'ensemble des combats qu'il va falloir mener auprès des entrepreneurs pour essayer de les accompagner.
Dans l'éditorial de présentation que vous signez, Stéphane Soumier, vous faites allusion à la crise du Covid, évidemment, et vous interrogez comment les business models vont-ils s'adapter? Ouais, quel bouleversement pour la consommation? Comment gagner à la nouvelle bataille de l'emploi? Et vous répondez ceci: les réponses, ce sont les entreprises et elles seules qui les trouveront. Et ça veut dire que vous ne croyez plus en l'État. Et quand même, pendant la crise, s'il y avait eu que les entreprises et pas l'État, vous imaginez le carnage.
Ouah, le débat! C'est l'État qui a décidé de tout arrêter, Philippe. C'est l'État qui a décidé de tout arrêter. Donc l'État assume ses responsabilités.
Il a privilégié la santé sur l'économie.
Et rien à dire là-dessus. Voilà. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. En revanche, vous voyez bien maintenant, il y a quelque chose... Enfin, la séquence est un peu surréaliste, même de la part du MEDEF, que demander à l'État de retourner, de dire aux gens de retourner au boulot. Mais il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer. C'est dans l'ensemble des entreprises, par le consensus qu'on va réussir à mettre en place, que chacun va réussir à surmonter ce choc incroyable qu'on a traversé. Vous ne pouvez pas avoir une décision administrative là-dessus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est jouer sur le chômage partiel. Voilà. Ça aussi, autre question intéressante et justement, débat passionnant au cœur sans doute des premières journées de Bismart.
D'autant que le chômage partiel est payé de toute façon par les contribuables. Alors vous-même, vous serez à l'antenne à quelle heure? Alors je veux dire, pourquoi ma question?
Je peux me permettre un truc là-dessus,
Philippe? Non, parce que je veux savoir à quelle heure c'est. Mais on a tellement de questions, si on se permet trop de choses, on n'a plus le temps de parler de rien. Si je crois le magazine Challenge, vous allez animer la matinale.
Non,
et si je crois
non.
La lettre de l'audiovisuel, vous serez à 18h.
Non mais attendez, il n'y a pas... un dossier de presse. Tout est officiel. Non, non, 18h.
Bon, d'accord.
Mais alors, tiens, on est dans une émission de médias. On est d'accord, Philippe, ça ne veut plus rien dire. On est, si vous voulez, broadcast. C'est-à-dire, on va être diffusé sur l'ensemble des box, etc. Aucun problème. Mais le sujet, moi, je suis convaincu que quand même très très peu de gens vont se mettre devant leur télévision à 18h pour me regarder.
Ouais.
C'est fini ça. C'est
et à ce temps-là, les gens travaillent.
En plus.
Votre cible, elle bosse à ce temps-là. Ou alors, il y a un problème. Si le chef d'entreprise ne bosse pas à 18h, il y a un souci.
Je ne vous le fais pas dire. Donc, ça va être massivement délinéarisé.
Ouais.
Voilà. Et donc, le sujet, et nous, c'est pour ça qu'on se dit digital first, le sujet, c'est qu'on soit accessible en permanence sur tous les devices avec une très forte indexation. Il faut que quand vous cherchiez un programme spécialisé sur un secteur spécialisé, vous puissiez le trouver sur Bismart.
Vous annoncez également des figures pour venir vous épauler, et notamment Michel Denisot. Comment l'avez-vous convaincu et que va-t-il faire?
Alors, c'est pas moi qui l'ai convaincu, c'est mon associé, Pierre Friedenreich en l'occurrence. Que va-t-il faire? Il va s'intéresser à un sujet qui est absolument passionnant, c'est la prise de décision au sommet de l'entreprise.
Ça va s'appeler Comex,
l'émission. Ça va s'appeler le grand Comex.
Le grand Comex.
Denisot, il met toujours grand. Il m'avait dit, faut dire la grande famille, le grand journal, il m'avait pris ça ici dans ses locaux. Exactement. Il m'a dit, tu mets grand et tout le monde dit, waouh, c'est une super émission.
Le grand Comex. Il rigole avec ça, le grand Comex. Et donc, son sujet, c'est comment est-ce qu'on prend les décisions aujourd'hui, là encore, 2020. C'est quoi la prise de décision dans une très grande entreprise? Vous avez... Le patron de droit divin, ça n'existe plus.
On va dire ce qu'est un Comex, c'est un comité exécutif, oui, mais vous allez pouvoir le filmer de l'intérieur. Comment les gens vont-ils se laisser filmer?
Si quelqu'un le peut, c'est Michel Denisot. Voilà, voilà notre pari. On se dit, Michel Denisot, de chez Michel Denisot, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant lui, qui ne s'ouvriraient pas même devant Stéphane Soumier, quels que soient ses liens avec ses chefs d'entreprise.
Parce qu'il y a, des secrets qui se disent.
Mais évidemment. Et évidemment.
Et ils vont vous aller griller les secrets.
On va voir, on tente. Ça n'est, vous savez, alors peut-être que vous me poserez la question, mais j'adore le concept de start-up de vieux que je suis en train de faire.
Voilà. C'est bon ça.
Mais oui, start-up de vieux. Et donc, on y va, on fonce, on a des idées très précises, on a un savoir-faire, et puis après, on se prend le mur où ça marche.
D'accord.
Test and learn en permanence.
Attendez un petit peu pour le mur. Restez avec nous, Stéphane Soumier.
Lancement aujourd'hui de la chaîne Bismart, le nouveau média d'information consacré à l'économie et à la finance. On continue à en parler avec son président fondateur, Stéphane Soumier, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Stéphane Soumier qui est notre invité ce matin, Philippe, pour parler du lancement de la chaîne Bismart, la chaîne des audacieux, comme elle se définit, et dont il est le président fondateur.
Alors, on l'a dit, Michel Denisot va présenter une émission d'un genre totalement nouveau, le Grand Comex, dans lequel il va filmer des comités exécutifs de l'intérieur. On va voir le secret des décisions qui sont plus souvent collégiales qu'on ne le croit. Autre nouveau venu arrivé, même pas sur votre chaîne, mais à la télévision, Blaise Matuidi, footballeur international. Qu'est-ce qu'il va faire chez vous?
Alors, il va faire, en fait, c'est un réseau social. Un certain nombre de sportifs de haut niveau ont monté un réseau social qui s'appelle BROS, B-R-O-S, où ils veulent en fait s'adresser en direct à l'ensemble de ceux qui les suivent, sans aucun intermédiaire. Eh bien, on va s'associer à BROS et ils vont faire une émission où ils seront en direct, sans aucun intermédiaire, pour parler de leurs investissements. On est sans arrêt sur sportifs trop payés, c'est une honte, c'est un scandale. Bon, bah, beaucoup d'entre eux utilisent cet argent de manière très intelligente. Et derrière cet argent, il y a des entreprises, derrière cet argent, il y a des emplois. Ils vont nous raconter tout ça. Alors ce sera Blaise Matuidi, mais ce ne sera pas toujours lui l'animateur. Ils vont jouer entre eux et de temps en temps, il y aura d'autres animateurs que lui.
Qui d'autre?
Ben, je crois que le deuxième, c'est Kimpembe qui fera l'émission. Après, c'est eux qui décident.
C'est quoi le business model de Bismart?
Alors, business model un peu appuyé sur la publicité, mais enfin, on ne va pas non plus aller chercher grand-chose. Sinon, appuyé sur des partenariats. Alors, il faut aller vite. Notre cible, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Et on offre à ces entreprises de taille intermédiaire un ticket finalement très, très réduit pour accéder à la télévision. Et certaines d'entre elles ne l'imaginaient absolument pas. Et pour monter des émissions qui sont des émissions qui les intéressent directement. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a eu 49 modifications du bulletin de paix en 2019. 49
la même année.
49 modifications du bulletin de paix l'année dernière. L'entreprise, la PME qui fait encore ça à la main, elle perd un temps mais effroyable. Vous avez un certain nombre de boîtes, et notre partenaire en l'occurrence c'est Cegid, les Lyonnais de Cegid, qui digitalisent les entreprises. Et bien, Cegid est intéressé à ce qu'on monte ensemble un programme sur la digitalisation de l'ensemble de ces PME, la digitalisation des fonctions support et des ressources humaines.
Donc, Cegid présente, et l'émission sera de fait gratuite pour vous, et c'est eux qui financent l'émission.
Elle sera un peu plus, elle va nous rapporter de l'argent. Il ne faut pas qu'elle soit juste gratuite. Mais j'y tiens beaucoup, parce qu'à aucun moment on va dire que la solution de Cegid est la meilleure par rapport à celle de ses concurrents que sont Talentia ou ADP, vous voyez.
Voilà. J'ai compris. C'est une question qui vous a un peu agacé, Stéphane Soumier, quand le journal Le Monde vous a demandé si le fait d'avoir des sponsors... J'ai bien compris. Quand Le Monde vous a demandé si le fait d'avoir des sponsors allait entraver votre liberté de parole, vous avez répondu ceci, je vous cite. « Le sujet n'est pas de critiquer, mais de servir la soupe et d'inviter à table les gens qu'on a envie d'entendre. Vous pouvez l'écrire noir sur blanc, dites-vous, aux journalistes du Monde. Que voulez-vous dire par servir la soupe ?»
Sans arrêt, on est effectivement dans une idée de critique, citons les grands auteurs, d'aller porter le fer dans la plaie. Très bien, quand il y a une plaie.
Albert Londres.
Albert Londres. Parfois, on porte le fer dans de petites égratignures. Moi, je veux faire un média positif. Moi, je veux faire un média... Tout le monde critique. Moi, je veux m'enthousiasmer. Moi, je veux admirer. Moi, je veux faire envie. Moi, je veux entraîner, avec ces incroyables entrepreneurs, les énergies du pays. Voilà. C'est ce que je veux faire. Alors c'est vrai qu'à un moment, les mots ont peut-être dépassé ma pensée.
Alors, vous avez même dit, vous pouvez l'écrire. C'est peut-être ça que vous n'avez pas dû dire. Vous n'êtes pas tout seul.
Mais si, mais il n'y a aucun problème.
Vous appuyez sur le groupe de presse CMI du milliardaire tchèque Daniel Kretensky qui a, elle, Marianne. Ils ont mis 5 millions d'euros. La diffusion de la chaîne, alors vous l'avez dit, dès aujourd'hui, vous êtes sur Free. Vous allez arriver sur le bouquet Canal Plus le 25 juin, le 9 juillet chez Orange et Bouygues. En revanche, Bismart ne sera pas accessible aux abonnés SFR, propriété du groupe Altice, qui est de fait votre ancien employeur. Est-ce qu'il n'y a pas là une petite vengeance personnelle?
Tout le monde a suivi non, parce que
c'est une émission média, ici, les gens sont au courant.
Voilà, bah, Altice ne nous répond pas, donc on attendra qu'Altice nous réponde.
Pourtant, vous avez les 06 de tout le monde. En janvier, vous avez annoncé parmi vos incarnations Laurent Guimier.
Ah non, je n'ai pas le 06 de Patrick Drahi. Hein, non.
Ah bon?
Ah non, non, vous l'avez, vous?
Ben non, je ne l'ai pas. Bah non. Mais moi, je n'ai pas bossé avec lui. vous annonciez parmi vos incarnations Laurent Guimier, ben l'ancien patron de Radio France, d'Europe, qui débute aujourd'hui à la tête de France Info, la télé. Donc, c'est incompatible.
C'était déjà incompatible, parce que déjà, de toute façon, il avait déjà un autre projet en tête. Donc, voilà, après, Laurent, il y aura toujours de la soupe à la maison. Voilà, donc, tu peux revenir quand tu veux.
Je l'ai dit, vous êtes un ancien d'Europe. Vous vous souvenez, vous étiez en mai 92. Moi, je vais vous dire, le 5 mai 92, Stéphane Soumier, sous les bombes à Sarajevo, document.
Oh mon Dieu.
La nuit, les canons ont bombardé Sarajevo.
Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? C'est terrible. C'est le plus violent ce jour. J'ai grand-père, nous tous, nous avons grand-père, oui, ici en Sarajevo, en ce moment. Une vie ne signifie rien. Ma vie, qu'est-ce que c'est ma vie? Rien.
Bientôt, la ville pourrait bien avoir faim. Dans certains quartiers, ne coule plus du robinet qu'un mince filet d'eau. Bientôt, la ville pourrait bien avoir soif. Et le canon claquait hier soir comme jamais.
Nous n'avons pas de secours. Nous disons chaque moment SOS.
Sarajevo, Stéphane Soumier, Europe 1.
Stéphane Soumier, c'est un document. Hein. Pourquoi être passé...
J'ai progressé depuis.
Oui, mais enfin, c'est fort d'être sous les bombes comme ça. Non,
ouais,
je n'ai pas d'accord.
Vous voyez, c'est le travers du jeune journaliste qui prend un ton compassé. C'est trop écrit, c'est pas assez direct. Enfin voilà, je le ferai mieux aujourd'hui.
Bah, c'est compassé, on serait sous les bombes et on risque sa vie. C'est autre chose que, faire un match de baby-foot avec ses copains.
Vous connaissez la phrase de Coluche. Il y a tout, hein, le sketch de Coluche, les journalistes.
Allez-y.
Tout, hein. Roger Gicquel, quand un avion s'écrase, c'est dans ses pompes.
Ouais.
C'est pas la peine
non,
que
y a
la
énorme
guerre
différence.
Soit dans votre ton.
Je ne suis pas d'accord avec vous, il y a une énorme différence. C'est que Roger Gicquel, il était en plateau. Alors vous êtes sur place à Sarajevo. Et la roquette, vous pouvez vous la prendre dans la tronche. Non, vous n'êtes pas d'accord. Préférez votre vie de maintenant.
Ah oui, alors non, mais il faut faire les choses les unes après les autres. Donc ça, c'était un moment de vie.
Ouais.
Maintenant, effectivement, c'est un autre moment de vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le ferai différemment.
Merci beaucoup Stéphane Soumier. Je rappelle le lancement aujourd'hui d'une nouvelle chaîne de télévision, ça s'appelle Bismart. C'est à 18h, mais c'est surtout en pré-play, un petit peu comme Arte. On peut voir les éléments quand on veut sur tous les devices de la start-up de vieux, comme vous dites. Merci de ce terme. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu à Europe. Culture Média continue. Dans quelques instants, il y aura le journal de la culture. Et puis notre invité, le DJ Bob Sinclair, qui a réuni plus de 100 millions de personnes sur Instagram pendant le confinement. Il est de retour avec un single inédit. Il s'appelle I'm on my way. On va l'entendre avec son pote jamaïcain Omi, plutôt il le chante, mais on va l'entendre ici en entier. Il y aura également évidemment son portrait inattendu par Ed Manarino, puis des indispensables spécial BD, 3 conseils avec Mathieu Charrier, et puis aussi on va parler comics avec Clément Le Saff, ça sera encore de la BD mais plus pointu. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.